Déjà, je voulais dire combien j'étais heureuse de faire partie de ce projet qui est un peu une aventure et qui reste, je crois, pour une grande part à inventer, à construire ensemble. Donc là, c'est très bizarre de présenter des départements qui, en fait, n'existent pas. On n'a pas de coordination scientifique, on n'a même pas de chacun de lieu. Donc c'est surtout ce que vous allez en faire. Et le premier succès, ça a été la qualité des candidatures, même si pour nous, ça nous a demandé beaucoup de travail. Donc concernant le département global, il y avait donc des mots-clés que vous voyez là sur la slide qui avaient été annoncés. Je ne vais pas y revenir parce que vous les avez tous vus et vous les connaissez. Je voudrais plutôt voir qu'est-ce que ça a donné concrètement. Alors d'abord sur le profil des fellows, dans le département global, il y a 62 membres, dont 14 doctorants. Comme François le rappelait, donc c'est un département très, comment tu as dit, très qualifié. Enfin, il y a beaucoup de professeurs expérimentés, j'aime bien. Alors, mais il y a quand même une majorité de femmes. Enfin, je dis « et » quand même parce que je n'ai pas croisé les deux, mais je pense que ça serait intéressant à faire. Voilà, donc c'est un département intéressant par sa sociologie rapide. Et sur les disciplines, en effet, il y a une certaine interdisciplinarité, donc une grande majorité d'histoire, comme vous le voyez, mais ça reste une minorité, puisque c'est 40% seulement de personnes qui se déclarent comme discipline principale de rattachement en histoire. Et puis avec une forte présence de l'anthropologie, et puis de la sociologie, des sciences politiques, du droit, de la démographie, de l'urbanisme, de la géographie, de l'art et de la littérature, ce qui est tout à fait intéressant, et puis encore d'autres qui ne sont pas classables. Donc, qui ne se sont pas classés plus exactement, hein, puisque ce ne sont pas nous qui avons classé, mais les personnes qui se sont déclassées, enfin, pour moi en tout cas. Mais, voilà. Toutes les périodes sont représentées en histoire, et ça j'y tiens beaucoup, et j'étais extrêmement contente hein, de la préhistoire, puisque on part de travaux qui viennent de la cité d'Ougarit, que je ne connaissais pas, au deuxième millénaire avant notre ère, jusqu'au immédiatement contemporain. Et j'ai essayé de faire un classement par siècle, quasiment tous les siècles depuis Jésus-Christ, en tout cas, alors pas avant Jésus-Christ, mais sont représentés. Donc l'histoire ancienne, médiévale, moderne, contemporaine. Et puis, il y a des grandes zones géographiques aussi qu'on peut retrouver, surtout l'Asie et l'Afrique d'ailleurs. Il y a une grosse concentration sur l'Empire ottoman qui est intéressante, très peu sur l'Amérique, c'est surprenant et intéressant, rien sur l'Océanie, donc c'est peut-être une piste à creuser. Et sur les laboratoires de rattachement, j'ai fait ça aussi pour me rendre compte un petit peu des institutions. Il y a 39 laboratoires de rattachement pour 62 fellows, donc vous voyez, c'est vraiment très éclaté. Le seul qui regroupe plus de 5, c'est le CRH à l'EHESS, mais c'est 6 membres seulement. Et puis ensuite, il y a le CETOBAC avec 5 membres. Donc on a vraiment une grande diversité institutionnelle. Je pense que c'est aussi un atout de cet institut de pouvoir faire dialoguer des personnes d'institutions et de laboratoires extrêmement différents. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est reprendre, donc je vous ai amené là, pour ceux que ça intéresse, tous les projets, c'était assez... pour essayer de voir quels étaient, après donc l'appel, les grandes orientations qui se dessinaient. Et finalement, alors il y en a qu'on retrouve par rapport aux... Et puis il y en a qui sont assez nouvelles. La première nouvelle, c'est un certain nombre de membres, ou de... Oui, on va les appeler membres, qui proposent des recherches pour travailler les notions pour penser la migration. Sur la notion, par exemple, de transnationalisme, la notion de migrantologie. Il y a une approche épistémologique sur la question des diasporas, c'est-à-dire le mot diaspora, ou encore qu'est-ce que c'est qu'une migration forcée, qu'est-ce que c'est qu'une migration contrainte, qu'est-ce que c'est qu'une migration discrète. Donc tout un ensemble comme ça de travaux qui vont essayer de penser sur les termes des migrations. Le deuxième ensemble, vous voyez, c'est des ensembles que vous allez peut-être vous reconnaître, je l'espère en tout cas pour ceux qui sont dans ce département, c'est essayer d'étudier les circulations comme des indicateurs de mobilité, mais des circulations matérielles. Donc il y a par exemple des recherches sur les monnaies, les circulations des monnaies dans l'Empire romain, des circulations artistiques, des circulations de manuscrits, par exemple les manuscrits médiévaux comme preuve d'un contact entre des régions différentes, entre le Proche-Orient et l'Italie, entre le 7e et 11e siècle, mais également des traductions, des études, des pratiques des traductions dans le 19e siècle dans l'Empire ottoman. Ou alors des circulations purement culturelles comme un mythe, essayer de voir comment un mythe circule entre plusieurs territoires. Ou des circulations de personnes comme des écrivains. Hein, il y a des études sur les écrivains algériens et comment ils circulent dans l'Europe. Donc vous voyez, tout ça, ça peut vraiment, je pense, créer quelque chose, une dynamique intéressante. Le troisième ensemble, j'espère que je ne suis pas trop longue, c'est sur vraiment les expériences de la mobilité et des déplacements de population. Et donc là, je ne vais pas tout citer parce que je vais être trop longue, hein. Ça fait un peu un inventaire à la Prévert, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait, qui résonnent sur les migrations estudiantines, faisant de l'Asie coloniale, de l'Afrique. Il y a plein de croisements possibles autour des migrations estudiantines. Sur les migrations dans l'Asie intérieure médiévale, les migrations nord-sud, de l'Europe vers l'Afrique, notamment Dakar, du retour des diasporas noires vers l'Afrique au XXe siècle, hein, donc des mouvements, là aussi on peut voir, oui, zéro minute, d'accord, la diaspora Wenzhou en France, les architectes au XVIIIe siècle, etc. Enfin, deux autres thématiques, les liens entre migration et persécution, qui n'étaient pas dans les thèmes annoncés, mais que ce soit les orphelins du génocide arménien, les trajectoires migratoires des victimes de persécution vers Israël dans l'immédiate après-guerre, les administrations des personnes déplacées juste après la guerre, là aussi, et toute l'étude des requalifications et déqualifications nationales de ces personnes donc, qui migrent à cause des persécutions. Vous voyez bien là combien on va pouvoir faire des ponts entre les différents départements. Et enfin, le mémoire et patrimoine des migrations, ce qui me permet de faire une transition avec la table ronde Sciences et Sociétés, puisque là, on a beaucoup d'études dans ce département sur les quartiers, les patrimoines de l'immigration, certaines études très proches, hein, la plaine Saint-Denis, etc., sur les villes migrantes, avec des comparaisons tout à fait intéressantes, par exemple entre Marseille et Buenos Aires, et j'en passe. Donc, il y a vraiment tout un ensemble autour des mémoires et des patrimoines d'émigration. Voilà, je voulais juste dire qu'il y avait des pistes transversales à tous ces différents projets que j'aimerais développer, c'est la question des affiliations religieuses, et là je rejoins Michel qui l'a aussi évoqué dans son département, et la question aussi des articulations entre sphère privée et sphère publique, avec des travaux tout à fait intéressants sur les frontières de la famille, les divorces, les enfants, et donc essayer de travailler sur ces articulations-là au fil des migrations. Voilà, je m'arrête là, excusez-moi d'avoir dépassé.